France Bleu RCFM. France
Bleu. Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans Toc Toc ce soir, nous avons l'immense plaisir de parler d'opéra et ce, grâce au chef d'orchestre Robert Girolami qui nous avait offert Tosca l'année dernière et puis un peu avant La Traviata qui avait été jouée il y a déjà quelques années au Théâtre de Bastia. Nous en reparlerons avec lui et notre invité ce soir jusqu'à 18h. Les 20 et 21 décembre, nous aurons, nous, Bastiais et reste de la Corse, l'opportunité d'aller applaudir Rigolette, qui est l'un des opéras les plus célèbres de Verdi. Pour en parler ce soir, Robert Girolami, bonsoir.
Bonsoir, buonasera a tutti.
Et merci d'être avec nous. Nous accompagne dans cette émission Cécilia Cantelli. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir tout le monde.
Vous êtes descendue dans la rue, comme à l'accoutumée, pour cette émission.
Comme d'habitude.
Pour demander aux gens s'ils aimaient bien l'opéra, en gros. Hein, c'est ce que nous découvrirons tout à l'heure. Jean-Charles Marcille est avec nous. Bonsoir Jean-Charles.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
The Return
de Rigoletto.
Et puis Marc-André à Castellane, puisque nous recevons un Sisqué ce soir. Il nous faut toujours un autre
Sisqué. Un troisième avec vous, ça fait trois. Hein.
Toujours placer le village au centre de l'actualité. Bonsoir à tous.
C'est la mafia de Sisqué qui est à
Sisqué Connection.
Les auditeurs n'en peuvent plus. Votre histoire, Robert, avec le théâtre municipal de Bastia.
Oh, c'est une longue histoire et très, très émouvante, puisque j'ai donc participé à la reconstruction du théâtre. J'avais beaucoup travaillé avec les architectes, et même on a eu des séances à Paris avec les acousticiens. Et donc ce théâtre a pu être ouvert. Ensuite, j'ai inauguré une première fois avec la Traviata, une deuxième fois encore avec la Traviata lorsqu'il a été rénové. Et maintenant, j'essaie de poursuivre l'activité lyrique dans ce vieux théâtre. Je dis vieux théâtre parce qu'il a plus d'un siècle d'existence.
Vous êtes toujours le chef d'orchestre et le directeur artistique de l'Orchestre National de Sibiu. Oui. Mais là, ce coup-ci, vous jouerez avec des Italiens, des musiciens venus d'Italie. Il y aura évidemment des Corses avec les chœurs, mais même dans la distribution. Et puis alors, des artistes qui viennent de tous les grands opéras du monde, que ce soit le Metropolitan de New York ou encore la Scala de Milan.
Voilà. Alors, l'orchestre sera évidemment... un orchestre italien, c'est-à-dire l'orchestre, les musiciens de l'orchestre régional de Toscane, donc ce sont des voisins, auxquels s'ajoutent quelques musiciens corses du conservatoire de musique. Ensuite, la distribution. Alors, j'ai voulu privilégier la qualité vocale. Donc, j'ai pris des musiciens avec peu de moyens, bien sûr, des chanteurs avec qui j'avais déjà travaillé et monté cette œuvre-là. Donc, évidemment, du Met de New York, du Bolshoï de Moscou, de la Scala de Milan. On va peut-être les entendre tout à l'heure.
Oui, on les entendra puisque on pourra les joindre par téléphone et notamment Linda Campanella, la soprano qui campe Gilda magistralement. On entendra même un extrait de sa voix qui avait été enregistré en direct en 2013, me semble-t-il. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est le coût d'un opéra. C'est une énorme machine. C'est très compliqué. À l'origine, cet opéra avait été monté à la Fenice et à Venise en version concertante. D'ailleurs, c'est ce que vous ferez les 20 et 21 décembre.
Alors, exactement. J'ai repris la partition d'origine de Verdi. Rigoletto était l'opéra préféré de Verdi, pour des raisons, je dirais, affectives, puisqu'il faisait jouer... Verdi a toujours fait jouer ses maîtresses dans ses opéras. Et là, il avait à sa disposition une soprano excellente. Donc, il a écrit cet opéra comme un oratorio, donc en donnant beaucoup d'importance aux couleurs orchestrales. Dire l'orchestre est à la fois un personnage et un décor. Donc nous allons refaire avec l'orchestre sur scène et une mise en espace des chanteurs le retour de la production originale. Pour mémoire, je rappelle que avant que le théâtre de Bastia n'ouvre, j'avais donné Rigoletto en version concert dans le Palais des Gouverneurs. Ça devait être à la fin des années 70 ou alors nous étions. J'étais jeune, étudiant au conservatoire, j'avais des cheveux frisés, longs, noirs, etc. Ça a un peu changé.
Oh là là, si peu. Les cheveux sont toujours longs et présents, ce qui n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table.
Donc nous rejouons le vrai Verdi au théâtre de Bastia. Voilà. Bon.
Allez, nous allons tenter avec Jean-Charles Marcy, moi-même et vous.
Tu te débrouilles maintenant. Voilà, tu te débrouilles.
Enfin, je n'ai visé personne. Non, je ne vous ai pas nommé.
Mais on n'est pas. Il y a un jeune et un moins jeune. Donc le jeune a toujours ses cheveux, le moins jeune a tendance à les perdre. Il les a perdus.
Nous allons essayer de raconter le livret. Alors là, livret signé Francesco Maria Piave, tiré d'une œuvre de Victor Hugo.
Alors oui, au départ ce serait Le Roi s'amuse, qui avait été donc publié par Victor Hugo. Mais avant Victor Hugo, alors on parle sous votre direction et sous votre responsabilité. Je crois que déjà à l'époque de Rabelais, et donc Rabelais qui était un contemporain de François Ier, voulait dénoncer un petit peu le côté libertin, on va dire, de François Ier. Et
donc c'est Rabelais qui démarre. Ensuite Victor Hugo.
Oui, mais alors il y a le fameux Rigoletto qui était le Joker, enfin pas le Joker, le bouffon, pardonnez-moi. Ça c'est l'actualité cinématographique récente. Donc ce bouffon du roi était Triboulet. Au départ. Et donc ce personnage ensuite a été repris par
Victor Hugo
et ensuite donc par j'ai perdu le
Piave.
Nom par Piave, et ça s'appelait pas Rigolette au départ, ça s'appelait La Maledizione, je crois.
Et ils ont failli l'appeler La Maledizione.
Ils ont failli.
Et alors,
mais c'est pas la censure encore,
c'est le téléphone arabe. Si Rabelais a commencé, qu'ensuite il a raconté à Hugo, qui lui-même l'a raconté à Piave, qui lui-même l'a raconté à Verdi, qui lui-même l'a raconté à Robert Giraud, l'ami, et que ça arrive jusqu'à nous au théâtre de Bastia, c'est pour ça qu'on ne comprend rien à l'argument. Mais on va tenter.
On va essayer d'expliquer.
On va essayer d'expliquer
calmement.
Bon, il y a ce duc de Mantoue, qui est un chaud lapin.
Qui serait en gros le roi François Ier à l'époque. Voilà. Bon,
c'est un chaud lapin.
Plus que chaud lapin, parce que c'est un. il adore les femmes et puis il est très libertin, on va dire. Allez.
Bon,
les femmes tombent sous le charme parce que c'est un bel homme. Hein.
D'accord.
Et ce duc va avoir affaire à deux comtes.
Mm-hmm. Entre autres, parce qu'on n'a pas la liste exhaustive.
Mais ce duc, comme
les
tout bon
filles,
duc, voilà.
Les femmes qu'il a déniaisées ou pas.
Déniaisées. Il y a d'autres termes. On a traduit, c'est bon. Ok.
Mais Laetitia va se révolter là.
Il faut surtout pas oublier le.
Cécilia, c'est vrai qu'il y a du Laetitia Casta en elle, mais c'est Cécilia.
Oui. Cécilia.
Un tout petit peu alors.
N'oublions pas le bouffon, hein, qui est important, puisque le côté tragique va venir en partie de lui. On peut raconter, oui, l'histoire de. C'est dans les livres.
Hein. Non, vous ne dévoilez rien. Non, bon, j'y vais parce qu'il est. On est perdu.
Non, mais la fille, ça finit mal, la fille de Rigolette.
Chut, mais bon alors.
À la fin, il meurt.
Non, lui non.
C'est pire pour lui.
C'est pire.
Rigolette, qui est le bouffon qui, évidemment, se rit de tous ces hommes et contes cocufiés ou bien de ses pères dont les filles ont été happées par le duc de Mantoue.
C'est ça.
Comme il se moque beaucoup, eh bien, il y a un conte un jour, et c'est tout l'argument, me semble-t-il, de l'œuvre.
Il jette une malédiction.
Qui lui jette cette fameuse malédiction. Ce conte, c'est le conte de Monterone. C'est ça,
voilà, tout à fait. Monterone, Jeanne d'Arc, la malédiction.
Voilà.
Et ça a été scandaleux à l'époque, parce que le bouffon Rigolette se moque, en fait, du pouvoir.
Exactement.
Du duc de Mantoue.
Donc censure.
Alias François Ier, et ça a été effectivement censuré.
Bon. Ce qu'on ne comprend pas, que vous allez nous expliquer. Pourquoi Gilda, d'accord ?
La fille
de Rigolette, la fille du bouffon, qui a été très amoureuse du duc de Mantoue, ça on peut l'entendre. Pourquoi se sacrifie-t-elle pour cet ignoble personnage ? C'est insupportable. Non mais, pourquoi elle se sacrifie ?
J'ai rien compris. Non mais c'est quand même la fille de Rigolette. Elle se déguise en homme, il faut le rappeler. Mmh. C'est pour ça qu'à un moment donné...
Pour fuir.
Voilà, Andy, qui est le premier homme qui franchit la porte avant minuit, je le tue.
Ça c'est le tueur à gages, Sparafugil.
Elle s'est donc déguisée en homme, et elle arrive avant minuit, là, à Gorge, mais elle arrive sciemment.
Elle se sacrifie.
C'est ça qui est fou. On ne comprend pas avec Marie.
Non, mais on est à l'opéra, il faut pas tout comprendre, hein, vous savez.
Ah, mais ça, je voudrais plus le dire moi aussi, alors.
Mais nous, on voudrait en fait avoir la réponse, et l'unique réponse, moi, je pense, de cet opéra, c'est la musique. Parce que dès le départ, il y a cette note, le fameux Do, qui nous indique que c'est un drame.
Oui. Alors, c'est un Do majeur et mineur. C'est-à-dire que c'est donc la tonalité la plus simple de l'échelle musicale, mais en même temps la plus la plus émouvante. Voilà, c'est celle qui peut être travaillée pour le drame, la plus dramatique.
Ah.
C'est pour ça que Verdi, alors que dans d'autres œuvres il a pris des tons compliqués avec beaucoup de bémol et de dièse, là il y a rien, aucun bémol, aucun dièse, c'est Do majeur et Do mineur.
Du coup, le spectateur comprend tout de suite qu'il va y avoir un drame.
Exactement. Le drame est annoncé dès le départ, dès la tonalité et dès l'orchestration.
Ce qui est d'autant plus insupportable, outre le fait que Gilda se sacrifie, alors que ce duc de Mantoue a été ignoble, hein.
Il a
dragué ouvertement Madeleine dans cette taverne, dans ce bouge, infâme.
Alors Madeleine, c'est la femme d'un des comtes. Hein.
Non, c'est non. la sœur de Sparafougi.
De Sparafougi, oui, le tueur à gages.
Le tueur à gages.
Mais c'est pas très féministe, hein, quand même. Oui.
Non, pas du tout.
Ne serait-ce que le propos de la donne est mort.
On va y venir. Eh bien, malgré tout ça, qu'est-ce qu'il fait, le comte? Eh bien, il chante le tube, on va dire, de l'opéra, la donna è mobile, alors que la pauvre Gilda s'est sacrifiée et est morte sous les coups du tueur à gages et se retrouve dans un sac. Et le pauvre Rigolette découvre sa fille mourante. C'est terrible, terrible.
Elle n'est pas
voilà
morte,
ce... en plus. Non, elle n'est pas encore morte. Voilà ce que fait le duc de Mantoue.
Oui, quand même. Oui.
Ah non, alors ça, c'est pas du tout ça.
Non, c'était pour acquiesser à ce que vous veniez de dire. C'était raconté avec tellement de talent.
Alors ça, ce que vous avez entendu là,
c'est rien.
C'est très important. Ça va arriver. C'est le micro-trotte de. Vous avez vu que c'est compliqué une émission de radio, pas autant qu'un opéra, mais quand même quand il est.
C'est un peu notre tragédie.
C'est du direct.
Quand elle est dirigée par ma personne, c'est une catastrophe. Donc non, je voulais qu'on écoute évidemment notre cher Pavarotti. Et d'ailleurs, vous allez nous donner votre avis, parce que je crois que vous ne pensez pas que c'est un bon duc de Mantoue. Oui, votre idée sur Pavarotti.
Ah oui, écoutez, je suis réservé sur la voix de Pavarotti.
Ou en duc de Mantoue?
Non, en duc de Mantoue.
Ah voilà.
C'est une belle voix, très étendue, mais son problème, c'est qu'il a chanté tout, et un chanteur n'est pas fait pour tout. Voilà, surtout un ténor.
Là, il n'était pas jeune, Marie, dans l'enregistrement que vous allez passer.
Non, là, il n'est pas très jeune. J'ai pas passé le premier enregistrement. Mais vous voulez dire que, d'accord, il a tout chanté, on ne doit pas tout chanter quand on est un chanteur, puisqu'on n'a pas une voix pour tout chanter.
Ouais.
Et pourquoi pas le duc de Mantoue? Pourquoi c'est pas sa voix?
Parce qu'il n'a pas la couleur du duc de Mantoue. Il n'a pas la tessiture, n'est-ce pas? Il pousse trop la voix pour montrer qu'il chante le bel canto. Voilà.
On lui a reproché de tenir trop la note.
Exactement.
Allez, on l'écoute quand même parce que je sais que ça fait plaisir aux auditeurs.
La donna è mobile, qual fiume al vento. Muta d'accento e di pensiero, sempre una labile, leggiadro viso, il fiato e il riso e menzognero. La donna è mobile, qua più al vento, muta d'accento e di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, ormai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più malvento, pensiere. Vieni pensier.
Mon Dieu, c'est atroce, il en fait trop, ce Luciano Pavarotti. Non, c'est magnifique.
C'est très bien. Juste un petit détail personnel.
Ouais, je vous en prie, Robert.
Pour moi, c'est un peu lent.
Donc, le rythme est un peu lent.
Ouais, ouais. Au théâtre, la semaine prochaine, on ira plus rapide.
Alors, pourquoi c'est un peu lent ici? Parce que nous ne sommes pas sur scène. Il ne s'agit pas d'une captation d'opéra. Mais vous savez, c'était le fameux film qui avait été tourné, où en effet, il fallait étirer la scène de cinéma. Voilà, donc c'est pour ça que le rythme ici est un peu lent. Non, je vous l'accorde, c'est un peu lent, c'est vrai. C'est un petit peu plus soutenu normalement, voilà. C'est un petit peu plus de soin de soin cette affaire-là. Les interprètes que nous allons retrouver. Alors, on est en train d'appeler Linda Campanella, qui est une interprète magnifique. Ah, oui. On a beaucoup de chance de la voir au Théâtre de Bastia, vraiment. Pour l'instant, elle est sur messagerie. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, dans Toc Toc. Sachez que, si vous ne la connaissez pas, vous la découvrirez le 20 ou le 21, ou les deux soirs si vous le désirez, au Théâtre Municipal de Bastia, dans le rôle de Gilda. Je vous propose de l'écouter ici, c'est une captation directe, donc on entend le public hein, qui respire, qui tousse, mais on entend surtout son interprétation et sa voix, et c'est le fameux moment où elle a rencontré le duc de Mantoue, et il lui a donné un faux nom, puisqu'il se fait passer pour un étudiant. On écoute cet extrait interprété par la Gilda que vous entendrez au Théâtre Municipal de Bastia les 20 et 21 décembre, dirigé par notre invité Robert Girolami. Thank you.
C'est avant le sac, ça.
C'est juste avant qu'elle se fasse kidnapper. La voix sublime de Linda Campanella dans le rôle de Gilda, qui sera sur la scène du Théâtre Municipal de Bastia les 20 et 21 décembre dans le Rigoletto de Robert Girolami. Linda Campanella est avec nous par téléphone. Buonasera.
Buonasera. Buonasera
a tutti. Oh, alors, c'est un plaisir de vous entendre. Robert va faire la traduction, ou Jean-Charles, ou Marc-André, à qui
on
veut.
On va se débrouiller à trois, on va y arriver.
D'abord, je voudrais vous dire que vous avez une voix absolument magnifique.
La sua voce est meravigliosa.
Grazie.
Vous avez déjà joué, Gilda, avec Robert Girolami.
Lei ha già partecipato a un'opera con Richard Girolami.
Robert, certo,
proprio Rigoletto abbiamo fatto insieme a Benevento. Sì,
ils ont joué à Benevento.
Sono déjà joué ensemble.
Est-ce que c'est un rôle qui fait partie de vos rôles préférés, que vous appréciez particulièrement, qui va très bien votre voix d'ailleurs?
Sì, l'ho capito.
Va bene, bene.
L'ho capito, sì. Diciamo che è nei miei un ruolo che faccio moltissimo e anche ultimamente ho fatto molte volte ed è senz'altro un ruolo che mi piace fare e adoro particolarmente. Insieme a Traviata sono i due ruoli verdiani che eseguo regolarmente, che canto e che mi piacciono moltissimo, senz'altro.
Robert disait tout à l'heure que Verdi a beaucoup écrit pour les femmes qu'il a aimées, pour ses maîtresses, et on a le sentiment qu'il n'a pas fait de très beaux cadeaux parce que ce sont des partitions très difficiles, et notamment Traviata.
Assolutamente, sono ruoli molto difficili ma splendidi per quanto riguarda veramente l'aspetto psicologico e il cammino che queste donne fanno, a parte il fatto del ruolo proprio, sono due personaggi differenti ma veramente molto che hanno un cammino veramente molto personale, psicologico, intenso durante l'opera, quindi sì, con le difficoltà tecniche soprattutto in Traviata, ma anche in assolutamente anche in Rigoletto, perché è una fanciulla questa voce eterea, ma poi arriva anche il dramma e quindi anche quello, gli accenti insomma verdiani si fanno sentire.
Alors nous ici on se demande encore pourquoi elle se sacrifie, Gilda, pourquoi elle va se faire tuer pour ce duc de Mantoue.
È perché lei ama incondizionatamente e totalmente, è la prima volta che si innamora e quindi per lei l'amore è una cosa, come lei è un personaggio, una fanciulla pura, quindi per lei l'amore è che questo sentimento profondo che ha è totale non riesce nemmeno davanti all'evidenza a rendersi conto di quello chi è questo personaggio, perché lei non è, il suo amore supera ogni ragione e ogni realtà, proprio è al di là, è un sentimento così intenso e per il quale lei dà tutta se stessa fino alla fine.
Un premier amour hors de raison.
Oui. Bon, c'est ce qui fait aussi qu'à la fin de Rigoletto, le public est complètement bouleversé. C'est ce qui fait tout le drame. Je crois que vous avez à côté de vous, Linda Campanella, le comte Monterone.
Si, senz'altro.
Parce que c'est sa faute. C'est sa faute à lui, s'il y a un drame.
Il colpevole lui del dramma.
Diciamo sì, in parte lo è, senz'altro. Lo passo.
Merci beaucoup. Grazie. Matteo Peirone.
Pronto.
Pronto, bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes bariton, vous campez le comte Materone, et c'est lui qui va lancer la maledizione.
Sì, sicuramente, sì. Je peux parler en français, mais c'est mieux peut-être en italien.
Ma italiano capiamo bene. Va.
Oui.
Ok, bene. Sì, il conte di Monterone ha due scene fondamentali, perché Rigoletto si chiama Ovvero la maledizione, ed è la maledizione lanciata da questo conte a cui il duca di Mantova aveva violentato la figlia. Quindi era una... aveva subito un'onta terribile e arriva lanciando una maledizione non solo al duca di Mantova ma anche a Rigoletto, e Rigoletto sente il peso di questa maledizione fino che appunto alla fine le ultime parole che dirà ha la maledizione, quando lui sente questa maledizione come il peso durante tutta la sua triste vicenda.
Rigoletto, c'est une satire politique, une satire du pouvoir, ou c'est un drame familial, selon vous, Matteo?
Oui. Oui, c'est comme un drame politique, absolument, parce que dans le drame de Victor Hugo, qui s'appelle Le Roi s'amuse, était à Paris avec les rois de France. Et après, la censure a dit, c'est pas possible avec les rois, il faut faire avec un duc de Provence, des provincias, et comme ça c'est finito à Mantova, et avec le duc. Comme ça, il y a un côté politique très important, mais aussi obscuré par la censure, et il y a absolument une histoire de familiale, d'amour inconditionné, et de malédiction.
Mais de malédiction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Matteo Perrone. On vous retrouve très vite les 20 et 21 décembre dans Rigoletto, dirigé par Robert Girolami. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, au revoir à tout le monde.
Grazie.
Au revoir.
Grazie.
Bye bye. Ciao.
Et à bientôt. Et si nous rejoignons Sparafugile?
Ah bon?
le méchant.
Le tueur à gage.
Le tueur à gage. Antoine Maestrachi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. L'un des Corses qui fait donc.
Le Corse qui est tueur à gage, le cliché tout de
suite. Voilà, le cliché de la distribution. Forcément, c'est vous le tueur.
Bien sûr. On ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre.
Alors, vous êtes en train de travailler à Marseille en ce moment. On sait que les basses, alors là, c'est beaucoup de travail, mais c'est un don du ciel aussi. Elles sont rares, les basses. Donc, évidemment, lorsque dans un opéra, on a une belle basse et un beau rôle, comme Sparafugile, et c'est un cadeau, un véritable cadeau.
Bien sûr. Je suis plutôt baryton basse.
Oui.
Mais voilà, là c'est Robert m'a fait vraiment un cadeau en m'offrant ce rôle-là, parce que ça me permet de d'aller bien au fond de ma voix, et parce que j'aurais adoré être une basse profonde, mais bon. Mais
il aurait fallu faire venir de Géorgie ou de.
Ouais. Mais non, je viens de Calenzane. Donc là-bas on n'a pas la voix aussi profonde, mais bon. Mais voilà, c'est vraiment un cadeau magnifique, et je suis vraiment très très heureux de faire ce rôle, parce que d'habitude je fais des rôles un peu plus rigolos, un peu plus légers, les Porello, Bartolo, et là je vais faire le méchant,
c'est un beau rôle.
Ça va me changer un petit peu. Alors, de mes habitudes.
Vous, dont la sœur est Madeleine, qui va être aussi sous le charme du duc de Mantoue, et qui va supplier.
Tu passes un autre doute.
Voilà, ils passent tout ça, alors il n'y a pas de.
Comme était un tacaoual.
Je suis bien contente que Cécilia et moi, on ne l'ait pas rencontré. Et donc, elle va supplier son frère, c'est-à-dire vous, de ne pas l'exécuter. Mais vous, qu'est-ce que vous allez répondre à cela?
Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. C'est les écus, voilà, moi il faut les écus. Donc moi je vais être long à me décider, parce que malgré tout je suis loyal, donc il m'a payé,
et oui.
Je dois lui rester fidèle, comme je dis dans le. Mais je vais lui dire, bon ben écoute, si à minuit il y a quelqu'un qui passe la porte à sa place, eh bien je tuerai celui-là.
Et oui.
Et donc il s'avère ça va être Gilles qui va passer la porte déguisée en homme, et elle va subir mes assauts criminels. Voilà.
Oh là là. Antoine, qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler justement ce rôle de basse lorsqu'on est baryton basse et qu'il faut aller comme ça atteindre des notes plus basses qu'à l'accoutumée? Comment vous travaillez?
Il faut. Déjà, je travaille avec quelqu'un, donc ça m'aide beaucoup. Et puis, il faut aller chercher. Il faut aller chercher au fond de soi. Il faut bien se planter dans la terre comme ça, et bien se. Il faut adopter une nouvelle façon de travailler pour aller chercher moins les aigus et plus les graves. Voilà.
Et avec les années, Antoine, on dit souvent qu'avec les années, on perd ses aigus. C'est pareil pour les graves ou au contraire, on en gagne? Comment ça se passe dans le mécanisme de la voix?
Je pense que c'est tout qui... Enfin, chez moi, tout est descendu. Les aigus sont un petit peu descendus et par voie de conséquence, ça m'a fait descendre un petit peu les graves aussi.
Voilà. Alors, comme vous êtes de Calanzane, vous êtes de Bastia aussi, Antoine, on va dire.
Oui,
donc, vous allez jouer à la maison.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, ça met la pression.
Oui et non. Parce que, il faut bien faire, on est à la maison. Mais non, parce que justement, on est à la maison et voilà, on est chez nous. Quoi.
Il faut montrer le meilleur de soi-même.
Oui, mais ça... en étant famille, ça va m'aider.
Merci beaucoup, Antoine Maestrach, d'avoir été avec nous. Merci infiniment.
C'est un plaisir. Merci à vous et mes amitiés à tout le monde.
Ben voilà. Il y a Robert qui est avec nous aussi. Et on vous retrouvera sur la scène les 20 et 21 décembre du Théâtre Municipal de Bastia pour Rigoletto. Merci.
Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.
Vous êtes bien entouré, mon cher Robert. Il y a aussi des chœurs dans Rigoletto. Alors, qui va assurer les chœurs?
Il y a un cadre de chœur professionnel qui vient d'Italie et un chœur corse, Bastia, enfin du Grand Bastia, qui est dirigé par Brigitte Olmetta,
qui a réuni... Qui a un rôle également, hein.
Qui a un rôle, dans la distribution. Un petit rôle, mais quand même, qui a une jolie voix, vous savez. Et donc, elle s'occupe de chœur. Alors, il y a une particularité, c'est que dans le spectacle traditionnel, ce sont des chœurs d'hommes. Et moi, j'ai trouvé, dans la partition, je vais vous la montrer, qu'il y a aussi des femmes qui chantent. Dans deux endroits, dans la fête chez le duc, et ensuite dans l'orage final. Voilà. Donc j'ai réintroduit un groupe de chœurs de femmes, entouré des hommes qui sont là traditionnellement. Donc, on va respecter, grâce à ce chœur mixte, totalement la partition de Verdi.
Vous pouvez expliquer aux auditeurs, vous l'avez évoqué, l'orage final, de quoi il s'agit, parce que là, Verdi encore, c'est incroyable de penser à tous ces détails. Quant à la fin, donc, il y a ce dénouement terrible. Verdi pense à installer un climat comme ça, d'orage terrible. On parlait de la fameuse note en Do mineur au départ, pour nous expliquer qu'il va y avoir un drame. Et à la fin, alors là, ça éclate complètement.
Oui, tout à fait. Mais c'est du cinémascope. Hein,
oui.
Ce sont enfin...
c'est la musique de film.
Voilà, tout à fait. C'est ça. Les précurseurs des effets spéciaux du cinéma. Mm-hmm. Voilà.
Et le bâton de pluie. Pardon. Voilà. Je m'en vais.
Mais non, c'est une pluie douce, le bâton de pluie. Pardon. Ça ne fait pas orage.
Oui, c'est pas orage.
Là, c'est vraiment un orage, un temporal. Comme on dit. Voilà. Et l'orage est imagé par le cœur. C'est le cœur qui fait l'orage. Voilà. Mm-hmm. Et c'est assez. C'est très dramatique. Voilà. Ça donne une atmosphère.
Une dimension.
Ouais, c'est ça. Oui.
Tout à fait terrible et dramatique.
Voilà. De films d'épouvante. C'est tout, on y est tout à fait.
Alors justement, Cécilia, est-ce que les gens connaissent Rigolette? Comment vous vous y êtes prise pour demander au Bastiais si il connaissait?
Alors j'ai bravé.
Dites la vérité, hein.
Ah oui, je dis la vérité, il y a pas de souci. J'ai bravé le vent ce matin pour aller donc à la rencontre des riverains et pour savoir s'ils connaissaient Rigolette, j'ai chanté. Alors je n'ai pas la voix de Linda,
mais comment vous avez fait exactement?
Alors je suis allée les voir. Et j'ai dit, la donne est mobile. Et comme c'est la seule chose que je connais, je me suis arrêtée là. Et voici leur réaction.
Oui, quand même. Oui.
C'est quoi?
C'est de l'opéra. Verdi. Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai même vu en Australie. Je l'ai vu à Paris. Moi, j'aime toutes les musiques. Toutes. Attendez, déjà, on a un ténor, là, à Bastia. Donc, je pense qu'il l'a chanté. Après, je les ai tous, les disques. En plus, l'autre soir, à la télé, il y avait un opéra. Mais c'était très beau. De toute façon, j'en ai vu plein d'opéras.
Ah oui.
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 Quoi?
C'est une chanson. Peut-être une pub, peut-être. Mais j'ai plus. Je sais plus.
Une chanson de variété, une chanson d'opéra.
Opéra. Depuis tout petit, je l'entends, je pense.
C'est vrai?
Ouais.
À la télévision?
Ouais.
Non, on n'en a pas entendu parler.
C'est la musique de la pub d'une pizza.
C'est un classique, ça. Mm-hmm. Opéra. J'adore.
La donne mobile, una da cento. Oui, un petit peu, oui. Je pense que c'est un opéra, j'adore. Et c'est vrai que lorsque j'entends parler de l'opéra, je vais chaque année au concert de musique d'opéra à Canaries, voilà, chaque année. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer Bacquier et puis d'autres personnes. Donc voilà. Pour la bonne raison, c'est que si vous voulez, comme je ne suis pas tout jeune, et que donc lorsque j'étais petit, on écoutait les disques donc sur phonographe pâté. Et à l'époque, il n'y avait que des disques d'opéra. Et Tino Rossi. Mais c'était surtout de l'opéra. Ça me rappelle mon enfance, oui. Et puis non, mais c'est surtout le plaisir. Et lorsque j'entends à la radio, ou même, j'aime écouter de temps en temps. Je vais sur Internet et puis c'est bien, oui.
Les Corses aiment l'opéra et les Bassiers aiment l'opéra.
Et les Vincent Dussa, il y a des voix qu'on pourrait engager.
Oui, il y a une très belle voix.
On pourrait faire une troupe avec les voix corses. Oui.
Merci Cécilia,
merci à vous.
C'est pour les vieux l'opéra ?
Ah ben, j'espère que non, et je crois que non. Écoutez, moi je travaille à l'Opéra de Paris, je vois beaucoup de jeunes, vraiment. C'est un spectacle total. Ceux qui aiment le cinéma aiment forcément l'opéra. Voilà. Et à Bastia, c'est quand même une culture insulaire, l'opéra.
Chaque personne que j'ai pu emmener à l'opéra, et ça vous avez déjà vécu l'expérience, je pense, qui ne connaissait pas l'opéra, ressortent complètement amoureux et ils consacrent leur vie à partir exprès pour aller voir des opéras. C'est incroyable l'effet que ça fait la première fois qu'on va voir un opéra et qu'on voit un orchestre comme ça et qu'on est dans le public, qu'on entend une ouverture d'opéra. C'est toujours un choc généralement, même si on n'est pas...
Ça sert à vendre des pizzas aussi. Hein.
Et ça sert à vendre des pizzas et du jambon.
Et du jambon,
pour la publicité. Quand on disait que c'était de la musique de film, ça a été utilisé et réutilisé. Alors il y a des artistes corses, on a dit. Il y a Brigitte Olmette, dont vous parlez. Il y a Marine Coste et il y a Lucille Ramelli qu'on retrouve pour son deuxième opéra avec vous. C'est une cisquaise.
Tort, là. Ça sent la magouille, tout ça. Hein.
Non, ça sent surtout que c'est une
le
jeune.
Talent, bien sûr.
Non, c'est une jeune et on disait qu'il y a des jeunes qui sont passionnés.
C'est vrai.
Puisqu'elle, elle y consacre sa vie, par exemple.
Tout à fait. Elle a 16 ans. Les mélomanes ont pu l'entendre l'an dernier dans Tosca. Cette année, je l'ai reprise parce qu'elle a la voix du page de Rigolette.
Elle a plus 16 ans maintenant. Hein.
Elle a 17.
Ouais, ou 18 même. Hein. Elle 18. A eu son bac et tout. Elle est en première année de musicologie à la Sorbonne. ça y est, elle s'émancipe.
Bon, je crois qu'elle a un bon avenir. D'ailleurs, dans quelques semaines, je vais la faire auditionner à l'Opéra de Paris pour avis. Voilà, pour qu'elle ait une ligne à conduire. Pour choisir sa véritable voix. Est-ce qu'elle est colorature ou plutôt dramatique ? C'est à choisir, elle est encore jeune, mais on va l'aider puissamment. C'est une fille de chez nous.
C'est ce que vous faites depuis des années aussi, hein. C'est aider les chanteurs, c'est important, parce que une voix, même une très belle voix, si elle est mal accompagnée, eh bien ça peut être compliqué. Il ne suffit pas de travailler et d'avoir une très jolie voix. Malheureusement, le professeur, les modes, tout y passe. On a des Corses, hein, on a Jean-François Maras, on a Éléonore Pancradi, donc on est très fiers. Je recevrai d'ailleurs Éléonore Pancradi mercredi, si vous voulez venir, Jean-Charles, parce que je vois que vous êtes de plus en plus friand.
Oui.
D'opéra et de lyrique.
Oui, mais volontiers.
Elle sera avec nous puisqu'elle jouera jeudi au théâtre de Bastia. Mon cher Marc-André, à l'histoire de l'opéra et de Bastia.
Béthiachtour, une histoire très très ancienne. Alors déjà, on va commencer par une petite situation. En 1930, dans le livre Peshangui, la Bastiano d'Alced, où scrive Ueruastiachu canta l'opéra, sempre gli stessi, Adraviata, Rigoletto et il trio adore.
C'est écrit
donc on est en 1930 et on est à l'époque donc héritier d'une histoire très longue. Alors c'est tout le long du 19e hein, que à Bastia et puis plus généralement en Corse, il y a un énorme succès autour du bel canto et de l'italien, en particulier vers 1850 quand toute la saga des Verdi se met en place. Premier théâtre à Bastia construit en 1773, il est fait en bois et il est sur la place du marché. Ensuite, il a été détruit un siècle plus tard environ.
Il a brûlé, voilà.
On l'a
c'est Marbeuf qui avait fait le premier, je crois.
Construit par Marbeuf, pour sans doute pour essayer de répondre, de civiliser, de répondre un petit
on
peu.
On a fait des jeux, nous, à la radio, monsieur, voilà. Donc ça, on sait.
On a surtout retenu ce qu'on avait travaillé.
À l'époque de culture française, ce qui ne va pas forcément très bien fonctionner, puisque c'est essentiellement la culture italienne et le bel canto qui est particulièrement apprécié des Bastiais, à tel point que la municipalité décide de construire un théâtre plus adapté aux envies et aux passions des Bastiais. La décision est prise vers 1873. Il est finalement bâti et inauguré en 1879. Et là, il va connaître une époque de gloire assez importante, jusqu'aux années, à la fin des années 30, avec les directions de Ignace Marietti et du fameux Vincent Fragassi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'opéra aujourd'hui, on a peut-être l'idée d'une pape, quoi, vraiment, c'est-à-dire de quelque chose d'assez bourgeois. Et à Bastia, pas du tout, pas du tout, pas du tout, puisque c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Je pense ne pas trop m'avancer.
Nulle part dans le monde.
Je pense ne pas m'avancer en disant qu'à l'époque, un opéra de Verdi qui sortait et qui arrivait, c'était aussi attendu que le White des Beatles en son temps. C'est un équivalent.
Ah, oui.
C'est-à-dire que ces airs sont chantés dans la rue à Bastia, ils sont particulièrement repris par les barbiers pendant qu'ils coiffent les dames ou les messieurs. Et par les boulangers, Ibis Cahors, voire même les maçons sur le chantier qui chantent très volontiers l'opéra.
Vous savez que César Vezzani sortait de l'opéra de Marseille. Il rechantait intégralement l'opéra pour les gens qui n'avaient pas pu rentrer et écouter dans la rue. Ouais.
Donc, à tel point que Vincent Fragassi se prenne dans la rue et recrute les volontaires, en particulier pour le Fosse de Gounod, parce qu'il a besoin de soldats. Et Diventavamos Ashtore a dit Isulda Didi Fragassi. Quand on va à l'opéra, on demabe Isulda Didi Fragassi, parce qu'on allait voir peut-être le petit neveu, le truc qui s'était fait embaucher à la va-vite dans la rue. Alors, malheureusement, cette belle histoire est interrompue assez brutalement le 4 octobre 1942. Les Américains bombardent Bastia parce que la Wehrmacht se replie. Les bombes tombent sur le théâtre. Et ce très beau théâtre qui avait été construit avec la participation quand même sur le modèle de la Scala di Milan, avec l'architecte Scala. Bon, son rôle, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait y revenir. Était peut-être un peu plus un prêt de nom qu'à proprement parler. Quelqu'un qui a vraiment mis les mains dans le cambouis. En tout cas, voilà, théâtre, très beau théâtre sur un modèle italien qui est détruit, qui est rénové et inauguré le 16 décembre 1981. Une Traviata mise en scène par Giampaolo Gennaro sous la direction d'un certain Robert Girolami. C'était en 80.
Invité.
Alors je vais évidemment, cette culture populaire, ça donne quoi? Ben ça donne des voix, hein, comme au football, on joue au ballon dans la rue au Brésil par exemple. Eh bien on a des grands footballeurs brésiliens, on a des quartiers ouvriers où ça castagne, on a des grands boxeurs en Angleterre. Et encore, ça Bastia, ça chante dans tous les sens. Donc on a des grands chanteurs, José Luchoni, César Vezzani, etc. Je vais terminer par une petite anecdote. L'an dernier, quand Jean-Paul Poletti fait son théâtre de Bastia pour ses 50 ans de carrière. Il fait venir Ramtin Kazavin pour chanter un morceau de la Traviata. Il brinde ici, un très joli brinde ici. Et donc il regarde Ramtin devant le théâtre en train d'extasier les gens avec ce.
Les piam.
Excellent. Et moi, voilà, a Traviata di Azobiazzo.
Extraordinaire. Ce que j'entends, merci beaucoup Marc-André Castellani, ce que j'entends dans ce que vient de dire Marc-André, c'est que c'est un théâtre qui a été créé, construit pour l'opéra.
Entièrement.
Donc il n'est pas pensable qu'il n'y ait pas d'opéra.
On l'appelle l'opéra en fait.
Au théâtre de Bastia.
Rue de l'opéra.
Ouais. C'est rue de l'opéra. Oui. Hein.
C'est pour ça que vous le faites. C'est pour ça que chaque année.
C'est pour ça que je voudrais bien installer le souvenir de la culture bastiaise au théâtre. Le théâtre, c'est de Bastia, c'est l'air lyrique. Voilà. Bien entendu, il y a d'excellents programmes autres, hein, je veux dire, d'ailleurs.
Bien sûr.
Mais c'est quand même la base, la source, la racine, c'est l'art lyrique. Et je dois dire, pour compléter ce que disait
Marc-André
Castellani, pourquoi tout le monde chante l'opéra? En fait, Verdi s'est inspiré de chansons populaires. N'est-ce pas? Adone Mobile, c'est un air, par exemple, qu'il a rajouté plus tard, en prenant, par exemple, une chanson napolitaine. Donc, le chant napolitain,
c'est la rue.
C'est la chanson traditionnelle populaire, voilà. Et Verdi s'est beaucoup inspiré dans ses grands airs de cette culture-là. C'est pourquoi il est facile de chanter les airs de Verdi, et si on peut dire.
Plus ou moins.
Et qui ont ce succès considérable.
Ouais. Non, mais ça marche même sous la douche, hein, attention. Hein,
bien sûr, c'est ça.
Qui est génial.
Ne manquez pas les 20 et 21 décembre, nous aurons la chance d'avoir à Bastia. Et vraiment, Robert se démène comme un beau diable chaque année.
Il y a encore quelques places, hein, il faut le dire.
Pour nous proposer un opéra à Bastia, dans notre opéra de Bastia, justement, Rigolette de Verdi, ce sera les 20 et 21 décembre. Où peut-on acheter les places
Directement au théâtre.
À l'accueil du théâtre. Et sachez que pour l'opéra, il faut être bien placé. Parce que moi, à chaque fois, je suis au poulailler et c'est pas terrible. Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous. On se quitte avec la voix de Rigolette, le vôtre. Comment s'appelle-t-il? Allez-y. Son nom, c'est très compliqué.
Rigoletto, il s'appelle Venceslas Anastasov.
Eh bien, écoutez plutôt sa voix.
Il vient du Bolchoï de Moscou.
Il vient du Bolchoï de Moscou. Il a joué un peu partout, même au Metropolitan de New York. On se quitte avec lui et Cortigiani, Villa Razza Danata. Au revoir.
C'est quoi Bertrand ? Entre midi et deux, j'ai sauvé trois vies.
Trois vies sauvées ? Mais t'as passé un diplôme super express de secouriste sans rien me dire ? T'as d'autres trucs à me cacher, ma chérie ?
T'es bête. J'ai donné mon sang depuis le temps que je voulais le faire et ça m'a pris qu'une heure.
Madame a trouvé une heure dans son emploi du temps, mais je dis bravo !
Non mais tu t'arrêtes jamais, toi. Et vous, que faites-vous en une heure ? Comme moi, n'hésitez pas. Prenez une heure pour donner votre sang. Prenez une heure pour sauver trois vies. Toutes les infos sur le site de l'Établissement français du sang.
La paire. Ah, Hervé, votre meilleur ami, mais aussi le pire des bricoleurs. Si bien que lorsqu'il a insisté pour vous aider à monter votre cuisine, vous étiez bien embêté. Mais heureusement, pendant le mois de la pause jusqu'au 31 décembre, la paire vous offre 100% de réduction sur la pose de votre cuisine. Votre cuisine est posée et Hervé est toujours votre meilleur ami.
La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Agir plus d'EDF a collectivité di Corsica e l'ADEME. L'énergie a un nostro bene. Tenimo la compte.
Le soleil va briller demain du matin jusqu'au soir. Tout au plus, on pourra noter quelques passages de nuages un peu plus conséquents début de matinée sur le relief, dans le Corteday ainsi que sur la Cassanich. Puis pour la nuit prochaine, la nuit après-demain, pardon, les rares nuages présents n'empêcheront nullement l'observation des étoiles. Les températures demain 12 à 15 degrés en pleine, 8 degrés sur le relief, les minimales 5 à 8 degrés.